Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Voilà, voilà. Enfin de retour.
Bonjour, Adit. Putain.
C'est fou, hein. Je rêve de revenir au boulot depuis des semaines. Et maintenant que j'y suis, hein, eh ben, je me demande comment j'ai pu rêver de revenir au boulot.
Et oui, fini le télétravail. Enfin, le télétravail à plein temps. Pour de nombreux Français, c'est retour au bureau en attendant de partir en juillet ou en août pour les grandes vacances. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un en face de soi et ça fait bizarre de remettre un pantalon. Pas vrai, Guillaume, dans cette vidéo qui fleure bon l'humour belge.
Oh mon Dieu, je vous ai tellement vu en vidéoconférence ces dernières semaines que j'avais oublié que vous aviez des jambes. Ben je vous jure, à mes yeux, vous étiez devenus des demi-humains, voilà, comme ça. D'ailleurs, toi Bruno, t'as vraiment attrapé un double manteau? Non, c'est juste que je pensais que tu positionnais mal la caméra pendant les calls. Mais en fait, pas du tout.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours, la rédaction se met derrière son clavier pour expliquer et décrypter l'actualité économique, financière ou sociétale. Et aujourd'hui, avec les Échos Start, on fête le retour au bureau.
Il va donc falloir se résoudre à revenir travailler au bureau.
Eh oui, et on connaît la date. Ce sera le 9 juin, troisième phase du déconfinement, le jour où le couvre-feu passera à 23h et où les restaurants pourront rouvrir à l'intérieur. On se dirige donc progressivement vers un retour à la normale.
Depuis le 9 juin, le télétravail est un peu moins la règle. L'État a desserré la vis du protocole sanitaire et les salariés commencent à retrouver progressivement le chemin du bureau, de l'open space et de la cantine d'entreprise, avec toujours pas plus de 4 personnes dans les ascenseurs, gare aux embouteillages à l'heure de pointe, pour certains, un film d'horreur.
Take the stairs. For God's sake, take the stairs.
Florent Verret est chef du service adjoint des Échos Start. On se croise parfois dans les couloirs du 10G, le siège des Échos et du Parisien, et on sera bientôt voisins de bureau, un effet de réaménagement des espaces post-Covid. Bonjour Florent.
Bonjour Pierrick.
Comment s'est passé d'abord votre retour au bureau ?
Bah écoutez, il a fallu comme pour beaucoup se remotiver à affronter le trajet du matin à Paris. Moi pour ma part, c'est le Vélib. Alors l'expérience est parfois un peu compliquée, on le sait. Et quand ça fonctionne pas, c'est le métro. Donc il a fallu se réhabituer à être avec des dizaines de personnes dans une rame de métro après un an en distance sociale. Enfin bref, c'est le retour à la vie parisienne comme pour beaucoup de gens. Heureusement, à la rédaction, comme vous le savez, Pierrick, pas mal de télétravail en ce mois de juin, donc ce mix rend la vie quand même assez agréable.
C'est à moi pour ma première journée de retour au bureau, j'ai été accueilli par un muffin et du jus d'orange, c'était quand même plutôt sympathique ce jour-là, ça faisait plaisir.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup, il fallait pas vraiment, c'est... Ah non, voilà. Oh, écoutez.
Vous avez rencontré pour les Échos Start un des salariés parisiens pour, on va dire, leur rentrée des classes d'une certaine façon. Des élèves plutôt contents de retrouver leurs camarades, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. J'ai appelé cet article « Les salariés nous racontent leur rentrée des classes » car pour certains, ils n'avaient pas remis les pieds dans leur entreprise depuis un an et demi. Rendez-vous compte, certains l'ont vécu comme un matin de septembre. Rappelez-vous, Pierrick, il y a longtemps, quand on redécouvrait notre école après 2 mois d'été, de vacances, de plage. Et certains, pas tous bien sûr, eh bien, ils étaient ravis de quitter leur table à manger pour retrouver leur bureau.
Oui, c'est vrai que moi, ça date à beaucoup plus longtemps que vous quand même. Qu'est-ce qui leur a manqué le plus ?
Indubitablement, c'est les collègues. Parce qu'il y a une vraie vie sociale au bureau. Et c'est peut-être une chose qui avait été sous-estimée avant la pandémie. L'entreprise, c'est pas seulement de la production, des objectifs, des réunions. C'est bien sûr ça, et essentiellement ça. Mais c'est aussi des rapports humains. Et parfois, même, il y a des amitiés qui se lient au bureau. Et c'est sans doute ça qui a manqué aux gens, parce que toute la journée, s'ils étaient en famille, eh ben, ils voyaient les mêmes personnes. S'ils étaient seuls, eh ben, c'était encore un peu plus dur. Voilà. Pour certains, c'est aussi évidemment le confort, parce que ne l'oublions pas, ceux qui vivent dans des petits appartements ou tout simplement des appartements qui sont pas adaptés à un travail à la maison. Ah ben, ils ont été heureux de retrouver leur chaise de bureau, souvent pas très jolie, mais quand même très confortable.
On le sait que le retour au bureau, Florent, ne sonnera pas la fin du télétravail pour de nombreux salariés. Il y aura un avant et un après confinement. C'est le thème d'ailleurs du dossier publié dans les Échos du 28 juin par les EcoStart. Une fois passée la crise, les entreprises ne pourront pas faire table rase de cette période de confinement forcé. Les salariés se sont habitués finalement à ce mixte distanciel-présentiel.
Bien sûr, le retour en arrière semble franchement assez difficile parce que le télétravail, on les connaît, on en a beaucoup parlé, il y a des avantages, surtout éviter le temps de transport. Certains vont transformer ce temps de transport, malheureusement parfois, ou heureusement peut-être, en temps de travail, mais d'autres vont faire des tâches personnelles, amener leurs enfants, faire du ménage. Enfin, c'est du temps de gagner sur sa vie perso et ça aide à l'équilibre. Mais au total, on le voit que les salariés, comme les employeurs d'ailleurs, plébiscitent un équilibre entre le télétravail et le présentiel. Dans les interviews qu'on mène et les études qu'on voit paraître ici ou là, ça tourne autour de 2 jours par semaine. Alors, les plus ambitieuses vont aller à 3 jours et plus de télétravail par semaine. Et il y a des entreprises un peu plus frileuses. Et il y en a. On a vu, par exemple, dans l'actualité ces derniers mois, le patron de la banque Goldman Sachs, qui fait partie de ces patrons réfractaires au télétravail, il l'a qualifié d'aberration, et je le cite, « une aberration que nous allons corriger rapidement ». Lui pointe le manque de collaboration, d'apprentissage. Et aussi, toujours pour justifier ce mix, parce que certains ont pu se dire « pourquoi on continue pas en 100% télétravail ?» Ben, en fait, ça va pas à tout le monde. Déjà, le télétravail, rappelons-le, il s'applique pas à tous les salariés. Et puis, pour ceux qui s'appliquent, parfois, ça se passe pas toujours bien. Je rappellerai 2 chiffres, selon un sondage Harris Interactive réalisé pour le ministère du Travail en avril dernier. La moitié des actifs qui travaillent à distance se sentent isolés. Et un tiers disent que le télétravail augmente le stress. Donc, télétravail, c'est loin d'être la solution idéale. Ce qu'ils aiment, c'est se dire, bon, tiens, 2 jours, peut-être 3 dans la semaine, je vais pouvoir m'organiser, ça sera un peu plus léger dans mon emploi du temps, et le reste du temps, je vais voir mes collègues, je fais des réunions, créativité, et j'y vais pas pour rien, j'y vais pas pour être isolé, j'y vais pour voir mes collègues, donc il y a des réunions, il se passe des choses.
Et le télétravail qui peut aussi augmenter parfois la durée et le temps de travail, on a pu le constater. On a beaucoup parlé de ces entreprises sans bureau il y a quelques mois, les fameuses remote companies. Ça va rester anecdotique?
On y a cru au début de la pandémie. Certains ont dit, allez, on rend tout. En particulier dans la tech, ils ont vu qu'ils avaient souvent des salariés super agiles et aussi super diplômés. Ça fonctionne comme ça. Alors, au revoir les bureaux et chacun peut travailler d'où il veut en France, voire dans le monde. Et on a vu que c'était, en fait, au fur et à mesure des mois, ça a un peu changé. Dans un article de ma collègue des EcoStart, Camille Wong, on apprend qu'un an et demi après le début de la pandémie, certains revoient leurs copies des startups. Elles reprennent des bureaux, souvent plus petits, mais elles reprennent quand même des bureaux pour qu'il y ait un point de ralliement, un point de rencontre entre les salariés. Sur ce sujet des entreprises sans bureau, j'ai interrogé le vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre. Lui aussi, il confie avoir cru à une multiplication des entreprises sans bureau. Et en fait, pareil, hein, aujourd'hui, il dit « ça va rester super marginal ». Réservé un peu à la tech. Moi, je voudrais dire, là, on voit qu'on est une période charnière, mais les entreprises, elles n'arrivent pas franchement aussi à prendre des décisions et à être sûres d'elles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tâtonnement. En réalité, les économistes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si, globalement, le télétravail augmente ou pas la productivité. On peut constater ici des gains de productivité et dans une autre entreprise, sur d'autres postes, des pertes de productivité. Une chose semble être sûre, c'est selon une étude de la Banque de France publiée en janvier dernier, le rapport entre productivité et télétravail ressemble à une courbe en U inversée. La productivité augmente avec une faible dose de télétravail, elle atteint un plafond et ensuite elle décroît si le télétravail est poussé à son maximum. Et on l'a vu avec le climax de la pandémie.
Il y a un chiffre, moi, qui fait réfléchir dans le dossier publié par les EcoStart. 7 fois sur 10, un salarié démissionne à cause de son chef. Alors, les retrouvailles pourraient être un peu compliquées. Est-ce que cela implique aussi de revoir le modèle managérial des entreprises qui ont longtemps favorisé le présentéisme?
C'est inévitable. Selon moi, en France en particulier, on a la culture de la présence. Surtout depuis le développement des open space. On est habitué à travailler sous le regard de ses collègues et de ses chefs. Il faut que notre manager nous voit travailler, sinon il pense qu'on tire au flanc. Et c'est même le soir, pour certains, difficile de partir avant son manager. Tout ça, ça a complètement volé en éclats avec la pandémie. On sait maintenant que les salariés, ils ont travaillé, ils ont même travaillé beaucoup en télétravail. Donc, les managers doivent un peu réapprendre à manager. Et ça, c'est favorisé aussi par la nouvelle génération qui va arriver de managers, qui est arrivé sur le marché du travail il y a quoi, il y a 5, peut-être 10 ans. Le télétravail existait déjà dans une dose plus petite, mais ils ont appris à travailler avec le télétravail. Ils savent que ça existe. Et là, maintenant, avec le paroxysme de la pandémie, ils savent que c'est possible et qu'ils sont efficaces. Donc, le retour en arrière, il est difficilement envisageable. Il me semble que les managers vont devoir apprendre à manager autrement et ça impose de nouveaux apprentissages pour eux.
Ça veut dire aussi, pour reprendre l'expression d'un copain québécois que j'ai toujours beaucoup aimé, moins de chefs et plus d'indiens ?
Oui, c'est un peu ça. Le chef doit être dans une posture un peu moins verticale. Ça passe bien sûr par faire confiance, donner de l'autonomie à ses salariés. Sinon, la machine, elle va se gripper parce qu'en télétravail accentué, il faut que les salariés aient une marge de manœuvre pour travailler dans leur coin, pour avancer sur leur sujet. Mais dans les compétences des managers, il va y avoir aussi savoir garder du lien, trouver des moments pour échanger avec les salariés, même à distance. Et ça, ça passe par une structuration des moments informels. On peut plus dire « Ah oui, c'est informel » ou « C'est intuitif, on va se croiser dans les couloirs et on va un peu échanger sur tout et rien. » En fait, à distance, si le télétravail continue d'augmenter, il va falloir se caler des points dans ses agendas pour discuter en mode collègue et pas en mode hiérarchique. Et enfin, une autre compétence à développer, ça va être de donner du sens à son équipe. Car les salariés qui passent leur journée derrière leur écran, peut-être seuls durant la journée, avoir des collègues en Teams ou en Zoom à la fin de la journée, eh bien, ils n'ont pas décompressé avec le petit café à la cantine ou à la machine à café. Ils vont se dire « Ok, bon, j'ai travaillé 7h, 8h, 9h, parfois plus. Mais tout ça, pourquoi faire, au fait ?» Donc, le manager va devoir réinsuffler du sens. Ça peut passer par des icebreakers en début de réunion, par des points, comme je disais, informels, constructure, il y a du changement à venir.
Des icebreakers, alors racontez-moi ça.
C'est des petites phrases ou des petits moments en début de réunion pour un peu briser la glace, pour se dire « Ah, on commence pas tout de suite sur l'ordre du jour, alors les objectifs de la compta, etc. » Non, ça va être plutôt « J'espère que vous avez passé un bon week-end » ou « On amorce sur un sujet un peu plus léger dont on avait déjà discuté. » Il faut rentrer en matière, il faut plus que... Sinon, le chef va se transformer en militaire qui donne des ordres et on le voit uniquement pour ça. Il faut recréer du lien aussi humain.
Depuis le 9 juin, les Français retournent au bureau, au compte-gouttes. Ce n'est pas encore le monde d'avant avec les rencontres impromptues à la machine à café ou les grandes tablées interservices à la cantine pour parler de tout et de n'importe quoi. Bref, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre.
Vas-y, mets ton masque, 1 mètre de distance. Main sur les hanches, vas-y, danse. Vas-y, mets ton masque, 1 mètre de distance. Main sur les hanches, vas-y, danse.
Florent nous a raconté tout à l'heure comment s'est passé le retour au bureau des personnes qu'il a rencontrées pour écrire son enquête dans les EcoStart. Mais pour d'autres, le retour au bureau, c'est mission impossible.
L'impression que quand elle revient au boulot, elle perd du temps là encore, mais à faire du blabla en fait avec ses collègues, à parler de tout et de rien, à essayer de les connaître. Et en fait, voilà, pour elle, quand elle retourne au boulot, c'est vraiment des journées de travail perdues. C'est le terme.
Marion Simon-Reynaud est journaliste aux EcoStart. Elle est allée à la rencontre de gens qui ne veulent pas retourner au bureau, ou en tout cas le moins possible.
La raison principale, c'est la perte de temps, en fait, à la fois dans les transports. Évidemment, aussi dans la préparation, tous les matins, on va dire, choisir ses vêtements. Voilà, c'est un stress en plus, en fait. Bon, les bouchons qui sont le corollaire du temps perdu dans les transports. Un autre stress aussi, celui de ne pas être à l'heure. Et donc, tout ça, en fait, fait que ceux que j'ai interrogés, notamment une certaine Caroline, qui a à peu près mon âge, 28 ans, qui me dit, voilà, quand je retourne au boulot, je perds 1h30 par jour. Et en fait, c'est cette perte de temps qui fait qu'elle est réticente à revenir au boulot. Dans sa tête, le retour au boulot égale fatigue, parce que nuit écourtée, parce que il y a effectivement toute cette perte de temps, et donc elle a l'impression de perdre en fait en bien-être, en qualité de vie. Et puis pour elle, au contraire, le télétravail, c'est de la productivité gagnée, parce que à l'échelle individuelle, elle va être plus efficace, elle va mieux s'organiser. Je dis elle, mais en fait, c'est la plupart des gens que j'ai interviewés. Je pense notamment à une autre femme qui s'appelle Delphine, qui a, elle, plutôt 45 ans, et qui dit, voilà, moi, j'adore ma vie, en fait, en télétravail, parce que entre midi et deux, je peux aller courir, parce que je vais chercher mon fils au collège. Enfin, voilà, il y a un meilleur équilibre, en fait, entre vie pro et vie perso. Et puis, au niveau collectif, alors ça, c'est un peu moins intuitif. Ils ont l'impression aussi que les réunions sont... plus courte, donc plus efficace, que les échanges sont plus rapides aussi parce qu'on va avoir le réflexe Teams, pour n'en citer qu'un, on va peut-être s'appeler au lieu d'attendre de passer devant le bureau d'un tel qui n'est pas là à ce moment-là. Alors, il y en a une qui m'a fait part de ses angoisses, carrément, pour le retour au boulot, parce que, en fait, elle a été embauchée en télétravail ou presque. Elle s'appelle Marion. Elle a l'impression que quand elle revient au boulot, elle perd du temps, là encore, mais à faire du blabla, en fait, avec ses collègues, à parler de tout et de rien, à essayer de les connaître. Et en fait, voilà, pour elle, quand elle retourne au boulot, c'est vraiment des journées de travail perdues. C'est le terme.
Des gens qu'elle ne connaissait pas finalement avant et qu'elle découvre. Mais ce qui est étonnant, c'est que on les connaît, les avantages du télétravail, ce gain de temps, ce sentiment de gagner aussi de productivité, d'avoir plus de temps aussi à soi, notamment en fin de journée ou le matin. On les connaissait au point de ne plus vouloir revenir travailler. C'est ça qui peut surprendre.
Alors après, c'est une question d'habitude, là encore. C'est-à-dire qu'ils se sont en fait confortés dans cette situation qu'on leur a imposée. Et il a fallu s'adapter à un choc un peu brutal et soudain de la systématisation du télétravail. Alors au début, ils le disent tous, ça a été un peu rude. Ils n'avaient pas l'habitude de travailler seuls, d'être chez eux. Puis en fait, bon an, mal an, ils ont créé leur petit coin chez eux, spécial bureau. Ils ont aménagé leurs horaires. Ils ont trouvé une meilleure productivité, par exemple, la nuit et pas du 9h à 18h classique et conventionnel qu'on a au bureau. Donc, en fait, par cette habitude, ils n'ont plus les armes, on va dire, pour affronter tout le stress en fait, qui accompagne le retour au boulot.
On voit qu'il y a beaucoup de monde. Vous ne voyez pas, mais dans les couloirs des Échos, ça y est, on voit à la cantine, il commence à avoir du monde. On voit que si la vie reprend petit à petit aussi dans l'enceinte des entreprises, dans les bureaux. Ce phénomène de gens qui ont un peu peur de revenir ou qui n'en ont pas envie, est-ce qu'on a une idée de son ampleur ?
C'est pas facile à quantifier. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des sondages. En fait, on a demandé effectivement aux salariés français qu'est-ce qu'ils en pensaient du télétravail. Et donc, les tendances qui se dessinent, c'est que, pour citer un des derniers sortis sur le sujet de OpinionWay en mai, 7 salariés sur 10 pensent que le retour en présentiel est nécessaire pour la cohésion des équipes, mais la moitié d'entre eux ne veulent pas revenir au boulot comme avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté d'hybridation. Pour en citer un autre, qui date là de l'automne, réalisé par YouGov, on montrait que 75% des salariés qui ont donc goûté au télétravail veulent que ce soit durable. Et parmi eux, 1 sur 5 voudrait que ce soit du 5 jours sur 5. Donc, il y a en fait plusieurs cas de figure. C'est très conjoncturel aussi, parce que bon, c'était une situation de crise globale. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'idée chiffrée de tout ce que ça représente, mais on sent quand même une volonté des salariés de systématiser ce télétravail et de ne pas y renoncer totalement. Et parmi eux, il y a effectivement des récalcitrants au bureau.
Oui, quand on voit ce sondage, hein, quasiment un salarié sur cinq récalcitrant qui se dit « je resterai bien 5 jours par semaine à la maison à travailler plutôt qu'à venir voir mes collègues ou mon chef ». Comment est-ce que les DRH, justement, peuvent réagir à cette demande et notamment à cet argument qui s'entend d'une meilleure productivité au télétravail ?
Alors, l'Association nationale des DRH française dit qu'il ne faut pas aller en tout cas vers des mesures contraignantes. Il faut revenir à des mesures douces et des mesures incitatives à revenir au boulot en montrant les avantages du bureau, montrer aussi pourquoi on a besoin d'eux en présentiel, pourquoi leur présence est nécessaire, redonner du sens au travail aussi, c'est pas que des tâches individuelles qui se font de son côté, voilà, redonner de la cohésion. Et puis il faut aussi beaucoup communiquer, ça c'est Caroline Diard, donc qui est chercheuse et spécialiste du télétravail, qui me le disait. En fait, la communication et la transparence va être un outil essentiel pour convaincre. En fait, il s'agit de convaincre ceux qui ne voient plus davantage à revenir au travail. Et puis aussi, elle alerte parce que si l'efficacité individuelle est boostée effectivement, et elle l'a remarqué dans ses travaux, il y a quand même une perte d'efficacité collective. Et donc, en fait, il faut mettre l'accent sur cette créativité boostée, sur, vous parliez des gens qui sont dans les couloirs, du fait qu'on se croise, ça c'est un facteur de création, d'interaction qui doit être mise en avant pour donner envie.
Il y a quelque chose qu'on perçoit aussi quand on lit votre enquête dans les EcoStart. Il y a une forme de... Alors, détresse, le mot est peut-être un peu fort. Une forme de malaise peut-être qui s'est installée chez certains à force d'être seul, d'être loin de ses collègues de bureau. C'est une sorte de syndrome de l'ermite.
Alors, oui, j'ai l'impression que cette détresse existe et qu'il ne faut pas la taire, en fait. Parce que le Covid, en général, a été un trauma. Et on parlait tout à l'heure de la systématisation brutale du télétravail. Ça a été un choc, en fait. Donc, il faut aussi prendre le temps. Il va falloir trouver des agencements pour faire revenir, pour donner envie, pour aussi combattre, effectivement, cette phobie sociale, cette phobie des transports, cette angoisse aussi liée à une pandémie qui fait que, voilà, il y a effectivement ce syndrome de la cabane, ce syndrome de l'ermite qui s'est développé et qui peut notamment se traduire dans le monde du travail.
C'est la chanson de la dépression. On a connu mieux pour apporter un peu de légèreté, en espérant que ça vous fasse sourire. Marion, vous vous êtes aussi penchée pour les EcoStart sur le burn-out des moins de 30 ans. Vous évoquez même un phénomène un peu tabou dans l'entreprise. Pour quelle raison ?
On s'est intéressé aux moins de 30 ans parce que quand on pense burn-out, on ne pense pas forcément aux jeunes, parce qu'on pense voilà, toute puissance, vulnérabilité, volonté de bien faire. Et en fait, en s'y penchant de plus près, c'est un phénomène qui existe et à la différence de leurs aînés, ils le taisent moins. Ils vont le dire. Et donc, mécaniquement, le déni va reculer. Et en fait, ce que ça traduit, enfin, c'est ce que la spécialiste du burn-out, cette fois-ci, Dominique Luyer, me disait, ça traduit aussi une différence de traitement du monde du travail envers les jeunes. C'est-à-dire qu'on leur renvoie comme message, souvent, il faut démontrer qu'ils sont compétents, il faut qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils aient de l'ambition, qu'ils prouvent qu'ils ont de la valeur. Et donc, c'est arrivé par exemple à une jeune femme dont je tairai le nom puisqu'elle elle était sous anonymat, mais qui travaillait pendant 8 ans chez Cdiscount et qui en fait a été mise à l'épreuve comme ça et on lui disait... C'est une belle opportunité, tu peux pas la louper, il faut t'y mettre. C'est double de travail, mais tu seras récompensée. Et qui derrière n'a rien eu de la récompense et qui s'est retrouvée en burn-out parce qu'elle était jeune, en fait. Parce qu'elle n'avait pas l'expérience des limites et l'expérience du « je dis non parce que je sais que c'est trop et que c'est pas reconnu en tant que tel comme charge de travail. »
Les moins de 35 ans sont les plus en proie à l'anxiété, aux pensées suicidaires et à la dépression que le reste de la population française. C'est ce qui ressort d'une enquête de Santé publique France publiée en mars dernier. Il y a un autre chiffre intéressant que j'ai lu dans votre enquête, Marion. Selon un sondage OpinionWay, 81% des jeunes de 18 à 24 ans pensent que le dirigeant est responsable du bien-être de ses salariés. Alors moi, je me souviens d'un de mes anciens patrons qui avait déclaré qu'il n'était pas là pour nous rendre heureux. Alors j'entends déjà le hockey boomer de mon réalisateur Willy, mais c'est pas une méconnaissance finalement du monde de l'entreprise ?
Alors ça a changé, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte en 2019, qui en fait ne rend pas responsables les entreprises du bien-être de leurs salariés, mais qu'il les tiendrait pour coupables de leur mal-être, c'est-à-dire... Les employeurs doivent mettre en place les garde-fous pour que l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle soit respecté. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça, le burn-out, c'est un nouage entre un surmenage au travail et une situation sociale. En fait, c'est de croiser des mondes qui ne fonctionnent plus, qui est en tension. Et donc, l'entreprise, depuis cette loi PAC de 2019, pourrait être tenue responsable de ne pas avoir mis en place le cadre qui permettrait d'éviter cette situation. Donc, oui, elle n'est pas responsable du bien-être, mais en même temps, le revers, c'est que si on va mal, on peut la tenir pour responsable. Et c'est là où c'est très compliqué, le burn-out, parce qu'on mêle personnel, professionnel, et qu'effectivement, la limite est ténue.
L'entreprise n'est pas là pour nous rendre heureux, mais elle n'est pas là non plus pour nous rendre malheureux, si j'ai bien compris. Mais être sans cesse à la maison, ne plus arriver à faire la différence entre le temps privé et le temps de l'entreprise, ne plus avoir le temps de décompression en voiture, en vélo, en métro, est-ce que c'est pas renforcer aussi le risque de burn-out ?
Si, si, complètement, l'empiètement de la sphère professionnelle sur la sphère personnelle, Donc, ce qui s'est passé pendant le télétravail généralisé est un terreau fertile au burn-out. Et ça, les spécialistes me l'ont dit. Et puis, il y a aussi les rituels sociaux, les SAS ont disparu. Donc, il n'y avait pas de soupape. Et par exemple, pour les jeunes parents, c'était la double peine parce qu'il y avait le risque de burn-out, on va dire, professionnel et le burn-out parental où il fallait tout gérer. Et en fait, ce surmenage était dû effectivement à la pandémie et au 100% chez soi. Et alors ça peut être effectivement un levier pour faire revenir les salariés au bureau parce que, par exemple, on peut voir le temps perdu dans les transports comme un sas de transition. Et en fait, tous ces moments, effectivement, de latence où on n'est pas productif, où on n'est pas efficace, c'est aussi des moments où on sort de son rôle salarial, de sa tâche, et on revient à sa vie, on va dire, personnelle et privée.
Comment est-ce que les entreprises peuvent s'armer face à ce risque, à ce moment charnière du retour en entreprise ?
Alors, pour accueillir cette parole libérée, il faut que les managers et les dirigeants se forment à ces enjeux de santé mentale au travail, qui, il y a quelques années, était quand même plutôt un gros mot. Hein. Le tournant s'est vraiment fait cette année. La crise a accéléré la prise de conscience, mais elle est là. Didier Meyran, le fondateur de l'association Psychodon, qui se charge donc de former les professionnels au risque de troubles psychosociaux et psychologiques au travail, dit crouler sous les demandes depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire que grandes entreprises comme PME ou TPE même demandent d'être formées et savoir gérer en fait les angoisses de leurs salariés, le burn-out, le surmenage. Il me citait par exemple Decathlon, Chanel, AXA. Tout le monde s'en préoccupe et effectivement, c'est un sujet pour tout le monde. C'est à la fois le privé, les indépendants, même le public. Donc je pense que le premier pas, c'est savoir entendre la détresse de quelqu'un au travail. Plus les supérieurs et les dirigeants et les managers seront formés au premier secours en santé mentale, plus le déni reculera et donc le burn-out sera un risque en moins, en fait. Il faut pouvoir l'identifier pour mieux le combattre.
Déprime à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine.
Merci Marion Simon Reynaud et merci Florent Verret de la rédaction des EcoStart. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.